Il y a une partie de vos activités qui n'a pas encore été abordée, mais liée à l'âge. Alors, on vous doit une phrase célèbre, on ne met pas 3 litres dans un litre. Et c'est votre vie de formateur. Vous avez transmis, vous avez enseigné aussi.
Oui, en fin de compte, pas mal, oui. En quantité, en qualité, je ne pense pas. Mais j'ai... Oui, alors je ne mets pas... Moi, exactement, il y avait 3 formules. 3 formules que je disais à tous les jeunes producteurs. La première, c'est évidemment, on ne met pas 1,5 litre dans 1 litre. C'est pour permettre aux gens de comprendre qu'une émission, il y a un moment, ça suffit. Ce n'est pas la peine de bourrer. Parce que si on bourre, comme beaucoup d'intellectuels aiment bourrer, parce qu'ils veulent... Si on bourre, on s'adresse à des gens qui sont capables de supporter un tel bourrage. Et en général, ils n'en ont pas besoin. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut laisser les gens respirer. Il faut laisser les gens s'approprier. Laisser le travail de la parole qui leur a été transmise faire rentrer dans leur tête, qu'ils se l'approprient, qu'ils aient le temps de se dire « Oui, il a peut-être tort, non, il est con, je suis d'accord avec lui, etc. » Ben, voilà. Donc, il ne faut quand même pas bourrer. Quoi. Faut pas... L'autre phrase, c'était « N'oubliez pas qu'on n'est pas obligé d'écouter la radio. » Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument qu'on écoute leur émission. Mais il faut qu'on l'écoute si elle mérite d'être écoutée. Si on arrive à séduire, à capter les gens. Il faut capter les gens. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, j'ai mis du temps avant d'accepter ça. Parce que moi, j'étais perfectionniste. J'ai passé dans une émission que j'aime bien, qui s'appelle Les Sans-Papiers. Il y a... une petite locomotive qui passe dans la parole d'une femme sur le quai de la gare. J'ai dû mettre, je sais pas, 4 heures à la faire passer. Parce que j'ai beau dire aux autres, le mieux, l'ennemi du bien, j'ai du mal à me l'appliquer. Il y a un petit truc, un tout petit son, c'est 3 secondes. Trop fort, pas assez fort, pas au bon endroit. Mais je voulais qu'il y ait une perturbation légère. C'est pas au premier plan, c'est très loin. Mais ça fait, pour moi, ça fait de la vie. C'est comme les talons du technicien dans cette émission. On avait un technicien adorable par ailleurs et très bon technicien. On lui avait demandé de s'habiller discrètement. Il avait le maillot d'une équipe de foot quasiment sans numéro, hein, des bandes bleues, blanches et grises. Des talons, on l'entendait venir du bout du quai. Mais il était très très bon preneur de son. Très très bon. La prise de son dans le train, c'est un modèle du genre, hein. La violence de toc-toc-toc. Là aussi, ce toc-toc-toc, ça m'a demandé un travail délirant. Mais pour moi, c'est pour ma satisfaction à moi, pour mon bon plaisir à moi, parce que personne n'a remarqué. Alors j'ai fait ça, là, j'ai fait de la formation après, effectivement, mais ça commençait très tôt, la formation, parce que Mike Chauvel m'avait demandé dans un premier temps de faire un stage, d'organiser... d'expliquer à des cadres africains de 18 pays, des responsables de radio de plusieurs pays, dont le Burundi et le Rwanda, d'ailleurs, je me rappelle, Sénégal, Mali, République centrafricaine. Une formation sur les grandes techniques de la fabrication des émissions, les grandes techniques. Donc j'ai eu affaire pendant 15 jours à des gens... un peu capé dans leur pays, un peu important. Il y avait le meilleur animateur d'Afrique, par exemple, qui voulait passer à la radio enregistrée. J'ai passé un excellent moment parce que c'était des gens adorables et puis alors d'une avidité de savoir. Et le fait d'avoir un nom arabe, ça a créé une sorte de... J'étais un peu africain, alors que j'ai rien d'africain, enfin, à part mon nom et quelques gènes quelque part. Mais ça... Donc du coup, il y avait une espèce de confiance... Et puis, je pouvais m'énerver, parce que moi, j'aime bien m'énerver de temps en temps. Ils me disaient, ah, la France, c'est formidable, tout marche bien, c'est un pays merveilleux. Puis, j'en ai eu marre. Je leur ai dit, bon, écoutez, vous prenez votre Nagra. Il y a un EHPAD à côté, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Allez-y, faites chacun un reportage sur l'EHPAD. J'appelle l'EHPAD, vous allez recevoir chaque jour un de mes stagiaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, pas de problème. D'autant qu'il y avait pas mal d'Antillais. Oui, ils sont tous africains. Ils sont tous revenus un par un en pleurant. En disant, mais vous faites ça à vos parents, vous faites des choses comme ça à vos vieux. Je leur dis, voilà, parce qu'il y a ce qui brille, puis il y a ce qu'on cache. Moi, j'ai déjà adoré faire ça. J'ai adoré les déciler, et puis leur apprendre des trucs. Et puis, j'aimais bien me promener avec je pense que c'était un pull. Il devait faire 2,12 m, 2,15 m. Et moi qui fais à peine 1,70 m, et encore avec des talons, c'était marrant de nous voir tous les deux, quoi. Et Mike Chauvel m'a demandé de faire un stage d'initiation en direct pour les chargés de réalisation qui n'en avaient jamais fait. Donc je leur apprenais les techniques du direct. Et pour leur apprendre les techniques du direct, j'ai toujours pensé que le direct dépendait de celui qui est au micro, pas de nous. Parce qu'on l'a toujours, on peut faire signe, mais si l'autre, il n'ouvre pas la bouche, c'est pas la peine. Hein, parce que j'ai donc mis les stagiaires au micro. Et alors là, ça a été une révélation pour certains, pas tous, il y en a évidemment des gens. Mais il y en a qui ont compris qu'il fallait être gentil avec celui qui parle. Parce que c'est lui qui est sur les charmants ardents. Je parle du direct. Hein. Et je me rappellerai toujours... J'ai compris ça quand M. Calonni, Philippe, pour lequel j'ai une grande admiration, une grande amitié, quand j'ai vu que cet homme-là qui était capable de jongler en direct... Moi, j'ai vu Philippe, par exemple, se prendre les pieds dans le câble. Il allait faire un compte-rendu d'un concert pendant l'entracte, avec son micro et son casque en Allemagne, on était en Allemagne, et il y avait un très long câble qui reliait au camion de diffusion. Il s'est pris les pieds dans le câble et ça a arraché son casque. Donc il n'avait plus le retour de Paris avec lequel il dialoguait. Et je l'ai vu faire des phrases qui permettaient, et avoir des silences qui permettaient à ceux de Paris de parler. Et moi, je n'avais pas de retour non plus. Et là, je me suis dit, mais il est vraiment fort, quoi. Il est en train de penser ce que l'autre va lui dire. Et en réécoutant le simultané, il y a eu deux chevauchements. C'est rien du tout. Et il commençait sa phrase comme s'il interrompait la... Oui, oui, je me suis dit ça. Mais cet homme-là, il tremblait toujours au micro. Je voyais ses jambes, le pied qui bouge comme ça. Alors qu'il est en train de rigoler, de déconner, parce qu'il adorait rigoler au micro. C'était quelqu'un qui faisait des émissions gays. C'est très rare. Ils sont gays. Hein. Parce qu'ils riaient pas seulement avec nous, ils riaient aussi avec... Ils faisaient rire les auditeurs, ce qui est quand même assez rare. Hein. Que souvent, les médias, les journalistes font rire les journalistes et puis s'invitent entre eux. C'est, comme disait McLuhan, le message du média, c'est le média. Bon, ben, on y est dedans. Là, on est complètement dedans. Mais Philippe, il était toujours en train de faire rire les gens et de trembler par en dessous, sous la table. Formidable. Hein. Et là, je me suis dit, c'est lui le funambule. Et quand j'ai mis mes stagiaires, beaucoup ont compris que c'était fini les engueulades par le micro d'ordre. On s'engueule après, pas avant, pas pendant, pas avant non plus. Hein.